RFI, 8h à Paris, 1h de moins en temps universel. Et le journal de Marion Cazanov, tout de suite à la une. Marion, la première interview de Donald Trump depuis son investiture.
Le président américain a critiqué le bilan de son prédécesseur et justifié la grâce qu'il a accordée aux émeutiers de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump qui fera son premier déplacement en Californie, à Los Angeles, où un nouvel incendie s'est déclaré et a poussé les autorités à évacuer des milliers de personnes. En Haïti, la visite du président colombien, Gustavo Petro, pour présenter ses excuses. Des excuses pour l'implication de soldats colombiens dans la mort de l'ancien président Jovenel Moïse. En France, le Premier ministre provoque l'inquiétude des partisans de l'aide à mourir. François Bayrou a décidé d'apporter des modifications dans ce projet de loi très clivant. Et puis les fans de basket attendent avec impatience les Paris Games ce soir, la délocalisation de la NBA avec les plus grosses stars de basket. L'une d'elles est particulièrement attendue par le public français, on le verra.
Mr. President, welcome back.
Thank you very much.
Welcome back, bienvenue de nouveau. Voilà comment le journaliste de Fox News débute son interview de Donald Trump.
Première interview depuis qu'il est de retour à la Maison Blanche et c'était évidemment sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs. Ravi donc de le revoir dans le bureau ovale. Dans cet entretien, le président américain a notamment justifié l'une de ses premières décisions, la grâce accordée aux inculpés de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Correspondance David Thompson.
Pour sa première interview depuis son investiture, Donald Trump ne prend aucun risque et joue à domicile. Le 47e président des États-Unis est assis dans le bureau ovale avec son ami de 30 ans, Sean Hannity, vedette de Fox News, considéré comme son conseiller de l'ombre lors de son premier mandat. Trump est interrogé sur sa grâce générale de plus de 1500 inculpés pour l'assaut du Capitole, y compris pour ceux condamnés pour violence contre la police.
La plupart étaient absolument innocents. Il n'y a eu que des incidents mineurs, ok? La plupart montés de toutes pièces par des gens de CNN.
Quant à l'hypothèse de représailles contre ses opposants que beaucoup craignent aux États-Unis, Donald Trump semble ne pas les exclure, y compris contre son prédécesseur, Joe Biden.
Joe Biden a de très mauvais conseillers. Quelqu'un a conseillé à Joe Biden de gracier tout le monde sauf lui.
Heureusement pour Joe Biden, avant l'élection, les avocats de Donald Trump étaient parvenus à faire reconnaître par la Cour suprême des États-Unis une immunité présidentielle très large sur les décisions prises en tant que président, décision qui avait permis à Donald Trump d'échapper à ses procès. David Thompson, Miami RFI.
Dans cette interview, Donald Trump estime aussi être arrivé, retourné à la Maison Blanche juste à temps. Nous pouvons récupérer notre pays, mais si nous n'avions pas gagné cette course, je crois vraiment que notre pays aurait été perdu à jamais, a-t-il expliqué, en ajoutant qu'il lui faudrait du temps, de l'argent et beaucoup d'efforts pour réparer les nombreux problèmes des États-Unis. Le président qui va bientôt promulguer sa première loi, et elle concerne l'immigration clandestine, votée hier par le Parlement, la loi Laken-Riley Act, prévoit la détention automatique de migrants en situation irrégulière qui ont été inculpés ou condamnés pour certains délits, même des délits mineurs.
La présidence de Trump, marquée aussi par ses menaces de guerre commerciale, notamment avec l'Union européenne.
Le président américain va imposer des droits de douane au Mexique, au Canada, ça c'est sûr, et il veut aussi taxer les pays européens, mais n'a pas donné plus de détails pour l'instant. Chez les 27, en tout cas, cette menace est accueillie différemment. Anastasia Becchio l'a constaté au Parlement européen à Strasbourg.
Quelle carte les Européens vont-ils jouer si Donald Trump met à exécution ses menaces ? Pour Céline Imar, exploitante céréalière et eurodéputée du Parti populaire européen, avant d'aller au rapport de force, il faut tenter l'apaisement.
Il semble aujourd'hui que l'administration Trump nous demande de nous approvisionner davantage en gaz en provenance des États-Unis. Moi, ça ne me paraît pas être une base de négociation délirante dans la mesure où on s'approvisionne aujourd'hui encore sur le gaz russe, ce qui indirectement nous permet quand même de financer l'effort de guerre russe. Non, peut-être que c'est aussi un point d'exigence ou en tout cas de départ dans les négociations où on peut peut-être se rapprocher des demandes de l'administration américaine sur ce sujet.
Une approche transactionnelle que rejette la députée centriste Marie-Pierre Vedrenne qui redoute qu'elle ne divise le marché intérieur. D'autant que les 27 n'ont pas tous la même relation avec le président américain.
Il y a certains chefs d'État et de gouvernement en Europe qui sont dans une logique d'espérance ou d'attentisme ou de soumission vis-à-vis de Donald Trump parce qu'il y a une crainte d'être ciblé. Et moi, je leur leur dit, attention, ni soumission, ni espoir vont les épargner. Ce qu'il faut, c'est véritablement l'unité européenne, parce que notre force, c'est le marché intérieur. Un État membre seul ne peut répondre.
En présentant les priorités de la présidence polonaise du Conseil, Donald Tusk a appelé les 27 à coopérer pour une Europe plus forte. Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Et pour son premier déplacement en tant que président, Donald Trump se rendra demain à Los Angeles.
Au chevet des sinistrés des incendies qui rongent la ville californienne depuis le début du mois. Si depuis, ils sont à peu près sous contrôle, un nouvel incendie s'est déclaré il y a quelques heures dans le nord. 30 000 personnes ont été évacuées, Loïc Piala, dont les 5 000 détenus d'une prison.
En 6 heures seulement, le Hughes Fire a brûlé 3500 hectares, plus de la moitié de la surface détruite par le Eaton Fire, l'un des deux incendies majeurs à avoir frappé Los Angeles ce mois-ci. Les vents, la végétation sèche et la très faible humidité ont aidé les flammes à progresser rapidement. Mais pour l'instant, elles n'ont ravagé que des espaces naturels. Et si les images d'hélicoptères diffusées en boucle sur les chaînes locales peuvent effrayer avec ces collines de feu qui éclairent la nuit californienne, les pompiers paraissent confiants. Contrairement aux incendies d'il y a 2 semaines, ils sont 4000 déjà déployés sur place et les conditions sont moins violentes. Les vents devraient se calmer pendant la nuit. Signe de leur optimisme, l'autoroute 5, axe qui traverse toute la Californie, a rouvert en fin de soirée après plusieurs heures de fermeture. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Le nouveau chef de la diplomatie américaine fait lui ses premières déclarations. Marco Rubio, qui s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il lui a promis un soutien inébranlable alors que se poursuit la trêve entre Israël et le Hamas. Malgré le cessez-le-feu à Gaza, l'armée israélienne a dit avoir tué un membre du djihad islamique.
En Syrie, la présence russe remise en question.
Selon le média syrien Cham, le nouveau pouvoir syrien a annulé le bail d'une société russe. Signé en 2019, il lui permettait de gérer et d'exploiter le port de Tartous pour une durée de 49 ans. On retrouve à Moscou notre correspondant Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, c'est un signal inquiétant pour Moscou qui redoute de voir la concession pour le mouillage de ses navires de guerre dans le port syrien subir le même sort.
Alors écoutez, pour Alexei Chepa, membre de la commission des affaires internationales de la Douma, cette décision du gouvernement intérimaire syrien s'explique par les difficultés éprouvées par Moscou à remplir ses engagements. En plus de la gestion, de l'expansion et de l'exploitation du port de Tartous, l'accord prévoyait des investissements à hauteur de 500 millions de dollars sur 4 ans. Avec le conflit en Ukraine, on comprend que les priorités du pouvoir russe aient quelque peu évolué, mais pour le député, ça ne remet pas en cause la présence militaire russe qui dépend, elle, d'un autre accord signé en 2017. S'il n'est pas encore question de priver la Russie du contrôle de ses installations militaires en Méditerranée, Moscou reste fébrile. À en croire le ministre syrien de la Défense, des négociations sont en cours sur l'avenir des bases militaires russes sur le territoire syrien, mais pour l'instant, aucune solution définitive n'a été trouvée. Moscou joue gros, et le nouveau pouvoir syrien le sait. La Russie cherche à conserver des installations de maintenance et de ravitaillement pour sa flotte en Méditerranée, une présence que Damas n'hésitera pas à monnayer compte tenu des finances exsangues de l'État syrien.
Jean-Didier Revoin en direct de Moscou pour RFI.
En Colombie, la paix totale voulue par le président se transforme en guerre.
Des combats entre guérillas ont fait une centaine de morts en une semaine, et cette flambée de violence dans 3 régions du pays a provoqué le déplacement de 32 000 personnes. Hier, Bogota a décidé de réactiver les mandats d'arrêt contre des chefs de l'ELN. C'était avec cette guérilla que le président Gustavo Petro avait entamé des négociations de paix qui sont donc suspendues aujourd'hui.
Gustavo Petro en Haïti pour présenter des excuses.
Des excuses pour l'implication de soldats colombiens dans la mort de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse. Gustavo Petro en a aussi profité à Jacmel dans le sud-est pour signer des accords bilatéraux. Correspondance de Peterson Luxama.
Tous deux blancs vêtus, Gustavo Petro, attendu initialement dans la matinée, a atterri à l'aérodrome de Jacmel avec plus de 6 heures de retard. Le chef d'État colombien a été accueilli par des membres du Conseil présidentiel de transition, dont Leslie Voltaire. Les deux délégations se sont ensuite dirigées vers l'hôtel Manoir Adriana, où s'est tenu le Conseil des ministres binational. Les deux pays se sont engagés à collaborer dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la résilience face au climat, de la culture, afin de valoriser leur patrimoine commun, de la sécurité pour lutter contre les trafics et de l'éducation pour préparer les jeunes au marché du travail. Dans son discours, le chef d'État colombien a présenté ses excuses au peuple haïtien pour l'implication de soldats colombiens dans la mort de l'ancien président Jovenel Moïse.
Je vous demande pardon parce qu'ici sont arrivés des Colombiens blancs pour assassiner le président d'Haïti. Au nom de tout le peuple colombien, je vous dis que nous ne croyons pas en cette mort propagée par ces Colombiens. Nous croyons en la vie.
Gustavo Petro a également lancé un vibrant appel à l'unité et à la solidarité entre les peuples latino-américains. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI 8h10 à Paris. En France, le Premier ministre s'attaque à un sujet sensible, très sensible.
Le projet de loi sur la fin de vie que François Bayrou aimerait scinder en deux textes, l'un sur l'aide médicale à mourir, l'autre sur les soins palliatifs. Pour certains, cela serait une manœuvre pour abandonner le sujet de l'euthanasie. Ainsi, François Bayrou détricoterait tout le travail d'une convention citoyenne, puis de plusieurs gouvernements successifs. Alors à l'Assemblée nationale, Victorien Villaume, cette approche divise jusqu'au sein du camp présidentiel.
C'est une manière d'abandonner le projet de légaliser l'aide à mourir, déplore l'insoumis Éric Coquerel. Déception également pour le socialiste Jérôme Guedje, qui souhaite un texte global.
On connaît les convictions de François Bayrou sur ce sujet. Ce n'est pas la position d'un Premier ministre minoritaire dans un contexte très précaire politique qui peut s'imposer à l'Assemblée nationale.
Même dans la coalition gouvernementale, cette approche de François Bayrou interroge la députée Ensemble pour la République, Prisca Thévenot.
J'étais ministre à l'époque quand le projet de loi avait été présenté en un seul et même bloc. Il faut peut-être respecter aussi cette volonté, qui n'est pas simplement une volonté des uns et des autres, mais d'une convention citoyenne avec des citoyens qui ont travaillé pendant plusieurs mois dessus.
À droite et à l'extrême droite, en revanche, on salue plutôt une décision cohérente. Éric Ciotti, de l'UDR.
Le volet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la nécessité de renforcer les soins palliatifs. Sur le reste, il y a des débats.
Il n'est pas question d'abandonner le sujet de l'aide à mourir, se défend la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Ce sujet sera à l'agenda le plus vite possible, mais il est question du vote des parlements sur des sujets qui sont des sujets de nature distincte.
Les soins palliatifs et l'aide à mourir seront d'ailleurs examinés dans la même temporalité parlementaire, affirme l'entourage du Premier ministre, sans plus de précision.
Victorien Villaume, les députés qui ont aussi adopté hier le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Quasi unanimité pour ce texte qui permettra de reconstruire plus vite l'archipel dévasté le mois dernier par le cyclone Chido.
Du sport pour terminer ce journal, Marion, les stars de basket de la NBA ont posé leurs valises à Paris.
La NBA, plus grande ligue du monde, la plus prestigieuse, et pour la quatrième fois en 5 ans, elle a choisi la capitale française pour délocaliser des matchs. Mais cette fois, l'événement suscite un engouement sans précédent. On va voir pourquoi avec vous, Victor Missistra. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Marion.
L'attente, Victor, est immense avant cette double confrontation entre les Pacers d'Indiana et les Spurs de San Antonio.
Oui, 2 matchs consécutifs de NBA en France, c'est une première. Et depuis lundi, tous les regards, toutes les attentions se portent sur une seule personne. Il mesure 2m24 en chaussures, il porte le numéro 1 chez les Spurs. Et à 21 ans, il est attendu comme le numéro 1 tout court du basket mondial dans le futur, un certain Victor Wembanyama.
Et le géant français trépigne lui aussi à l'idée de jouer devant son public.
Son équipe va jouer comme à la maison, mais 6 mois après les Jeux Olympiques de Paris et l'argent décroché avec les Bleus, ces matchs près sans Wemby auront une autre saveur.
Je sens bien sûr une énergie différente. J'attends de voir encore comment ce sera les jours de match, autour de la salle. Je suis pas beaucoup sorti dans Paris, j'ai pas eu l'occasion encore de voir ça de mes propres yeux. C'est quand même différent de la dernière fois. On sait que c'est une fanbase différente, des fans qui attendent toute leur vie ou toute l'année, voilà, d'avoir la chance de voir un match NBA. C'est différent.
Et oui, un public qui sera différent. 53 nationalités au total parmi les 32 000 spectateurs des deux rencontres. C'est un record, nous a confié hier Adam Silver.
Adam Silver, le patron de la NBA, qui s'est donné pour mission de développer la ligue dans le monde entier.
Et pour cela, quel meilleur ambassadeur que Wembanyama. Déjà 5e en termes de vente de maillots, 3e joueur le plus regardé sur les réseaux sociaux. Il rend notre travail plus facile, se réjouit Adam Silver avant cet événement stratégique.
Pour les fans de toute l'Europe et même de plus loin, ce sont des dates qu'ils peuvent cocher sur leur calendrier longtemps à l'avance pour venir profiter d'un match NBA, presque indépendamment de l'équipe qui joue. Mais la présence des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama est encore plus spéciale. Il n'est pas seulement une grande star en France, mais il est devenu une star mondiale en peu de temps dans la Ligue.
Car après seulement une saison et demie, Victor Wembanyama affole les compteurs. Il vient de franchir la barre des 100 matchs et totalise plus de points au même stade que LeBron James, le meilleur marqueur de tous les temps. Le Français a tout intérêt à encore épater le monde ce soir s'il espère voir son souhait exaucé, celui de jouer tous les ans avec les Spurs à Paris.
Le dossier du 8h signé Victor Misistrano. Enfin, en football, les joueurs du PSG renversent Manchester City en Ligue des Champions. Menés 2-0 au Parc des Princes, ils ont ensuite inversé la tendance pour s'offrir une victoire de prestige 4-2. Le PSG est 22e de cette poule unique. Il faut terminer au moins 24e pour se qualifier.
Merci Marion Cazeneuve. On va y revenir bien sûr avec Antoine Grenier dans le prochain journal des sports. 8h15 à Paris. Tout de suite, la presse. À une de la presse internationale. Frédéric Couteau, comment mettre fin à la guerre en Ukraine ?
Lors de sa campagne électorale, Donald Trump avait affirmé qu'il réglerait la question en 24 heures. Puis il s'était ravisé en parlant de quelques semaines et maintenant, depuis la Maison-Blanche, il parle de 100 jours. Preuve que la situation est un peu plus complexe qu'il voulait bien le croire. En tout cas, le président américain veut prendre le taureau par les cornes. Donald Trump a confié au lieutenant général à la retraite Keith Kellogg la tâche de mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours. Donc, annonce le Wall Street Journal, qui tempère aussitôt, presque personne n'y croit, surtout pas les Russes. D'ailleurs, poursuit le journal, le jour même de l'investiture de Donald Trump, Vladimir Poutine avait indiqué qu'il n'était pas pressé de terminer la guerre en Ukraine. Et puis, la personnalité et les compétences mêmes du général Kellogg sont largement critiquées en Russie, relève encore le Wall Street Journal. La presse russe, en effet, le qualifie de relique du complexe militaro-industriel américain datant de la guerre froide.
En tout cas, Donald Trump menace la Russie de nouvelles sanctions économiques.
Oui, Donald Trump a assuré hier, rapporte Le Monde à Paris, que si Moscou ne concluait pas d'accord avec l'Ukraine maintenant, il n'aurait pas d'autre choix que d'imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres pays. Réponse de la diplomatie russe, il faut examiner les propositions de Trump sur l'Ukraine.
Alors, est-ce que les menaces américaines vont porter leurs fruits? Une rencontre au sommet Trump-Poutine est-elle envisageable?
Le président américain en est certain. Nous allons nous entretenir très bientôt avec le président Poutine et nous verrons ce qui se passera, a fait savoir Donald Trump, rapporte Le Figaro à Paris. Ce serait, s'exclame le journal, une première entre les chefs d'État américains et russes depuis l'invasion à grande échelle du 24 février 2022. Toutefois, sur le plan militaire, pointe Le Figaro, l'avantage demeure au Kremlin qui ne cesse d'avancer dans le Donbass, menaçant désormais les villes de Pokrovsk et de Toretsk, des villes capitales dans le dispositif défensif ukrainien. L'intérêt pour Poutine, qui a réussi à trouver des parades économiques face aux sanctions occidentales, de négocier ne semble donc pas évident. Dans son message de félicitations au président américain, il a tout de même fait savoir être ouvert au dialogue et rechercher une paix durable plutôt qu'une brève trêve. Reste également, poursuit Le Figaro, que le contenu d'un éventuel accord autour du conflit ukrainien demeure inconnu. Volodymyr Zelensky a énoncé ses conditions à de multiples reprises, retrait de la Russie de tous les territoires occupés, près de 20% du pays, indemnisation et traduction des criminels de guerre en justice. Le Kremlin, de son côté, a fait savoir qu'il conserverait ses gains territoriaux, d'autant que celles-ci sont officiellement des régions russes depuis leur annexion à la suite de référendums non reconnus par le droit international.
Le temps, à Genève, s'interroge. Une rencontre au sommet entre le chef du Kremlin et Donald Trump est-elle imminente comme ne cesse de l'affirmer ce dernier? Et si oui, où et quand?
D'après le quotidien suisse, qui cite des sources russes proches du pouvoir, des contacts en coulisses sont déjà en cours. Une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump serait également dans les tuyaux. En fait, croit savoir encore le temps, la plupart des faucons russes n'excluent pas des négociations directes entre Moscou et Washington, bien au contraire, mais pour eux, celles-ci doivent se tenir sans acteurs superflus, entre guillemets, comme les Européens et a fortiori les Ukrainiens, qui n'auraient pas voix au chapitre tant qu'ils sont dirigés par ce régime nazi, comme il le qualifie, incarné par Volodymyr Zelensky. Ce qui augure très mal de leur sort, mais aussi de celui des Européens de l'Est dans leur ensemble, commente la directrice adjointe du Conseil européen pour les relations internationales, Vesela la Tcherneva, toujours dans les colonnes du temps. Au fond, poursuit-elle, Poutine rêve d'un remake de Yalta lorsque les grandes puissances se sont partagées le monde en différentes sphères d'influence à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et s'il arrive à ses fins, nous vivrons désormais dans un monde où l'on peut attaquer un pays voisin, lui prendre ses territoires et forcer tout le monde à accepter qu'il en soit ainsi.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Une partie du monde entend parler pour la première fois de cette grande ville située au centre de la Chine, Wuhan, capitale de l'état du Hubei, où ce 23 janvier 2020, le gouvernement chinois annonçait un confinement, le premier en raison d'un mystérieux virus dont on ne sait rien à ce moment-là, ensuite baptisé Covid-19 et à l'origine d'une mise à l'arrêt total du monde et de nombreux morts. Aujourd'hui, on ne fait mention nulle part en Chine de cet anniversaire, mais dans cette ville où tout a commencé, les stigmates demeurent encore aujourd'hui. Cléa Broadhurst, envoyée spéciale permanente de RFI en Chine, s'est rendue à Wuhan et elle nous raconte. Reportage.
La vie a repris son cours à Wuhan, mais les habitants se souviennent, parfois dans la douleur, des mois les plus difficiles de leur vie, comme nous le dit Tang, qui tient un petit magasin près du marché de fruits de mer Huanan.
Au début, ce n'était pas grand-chose, mais plus les rumeurs se répandaient, plus elles devenaient exagérées et on se sentait tous à cran. Dire que le marché est à l'origine de toutes ces infections, c'est complètement absurde. Des rumeurs circulaient même sur le fait que les gens d'ici mangeaient des chauves-souris. Aucune preuve, juste leur imagination débordante.
Ils sont nombreux à dire que le marché a été blâmé à tort. À l'époque, ce qui comptait pour eux, c'était de survivre, explique Yue, un chauffeur de taxi.
À Wuhan, causer des ennuis, c'est comme demander la mort. L'approche était la suivante, mieux vaut arrêter à tort que laisser passer quelqu'un. Sur TikTok, on voyait des vidéos de Pékin ou de Shanghai où des gens disaient « Je veux sortir, je viens d'outre-mer, je veux juste faire un jogging. » Et la police restait là, essayait de les raisonner. Mais des vidéos similaires à Wuhan? Non. Si vous osiez faire quelque chose comme ça, c'était chercher des ennuis.
Le nombre de victimes est une incertitude qui demeure, souligne Li.
Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. Il n'y a pas eu de bilan officiel. Les critères pour les statistiques étaient très stricts. Par exemple, on ne comptait que les personnes officiellement diagnostiquées et décédées à l'hôpital. Et encore, il fallait mourir dans un service spécifique ou dans une zone désignée pour être pris en compte. Les crématoriums fonctionnaient 24 heures sur 24, sans interruption. Wuhan comptait 4 crématoriums qui fonctionnaient tous sans interruption. S'il brûlait un corps toutes les demi-heures, je vous laisse faire le calcul.
Aujourd'hui, les habitants de Wuhan veulent tourner la page, oublier à quel point leur ville a pu être silencieuse. Pour Dang, cela a aussi révélé la persévérance des habitants.
Tout le monde était uni dans la lutte contre la pandémie. Les personnes âgées, les jeunes, on faisait tous preuve de patience. L'esprit d'entraide, les bonnes actions sans se soucier du profit personnel se sont renforcées. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Wuhan tente de reprendre du poil de la bête, voulant à tout prix laisser derrière elle les stigmates de cette période douloureuse. Cléa Broadhurst de Wuhan, RFI.
Cette pandémie à l'origine de plusieurs millions de morts et d'une fermeture du monde, de nombreux confinements ont suivi celui de Wuhan, notamment aux États-Unis. Les États-Unis où ont démarré les premières recherches de vaccins contre le Covid-19. Guillaume Nodin, vous êtes notre envoyé spécial permanent à Washington. Vous nous dites, Guillaume, que la restriction sanitaire, la politique menée à l'époque avait été très contestée par des personnes qui aujourd'hui vont être en charge justement de la santé pour le deuxième mandat de Donald Trump.
Oui, et on pense notamment à Robert Kennedy Jr., dit RFK Jr., qui a retiré sa candidature présidentielle au profit de Donald Trump en échange du poste de ministre de la Santé. Il veut y appliquer ses idées et le nouveau président a déjà dit qu'il lui laisserait une grande marge de manœuvre. Concernant le coronavirus, il est utile de se souvenir qu'il s'était opposé au confinement et qu'à l'époque, il privilégiait des traitements à base de médicaments comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, dont l'inefficacité a été prouvée. Il s'est aussi opposé à la vaccination obligatoire. En outre, RFK Junior fait le lien entre la vaccination et l'autisme, alors qu'aucune étude ne l'a à ce jour prouvé. Bref, c'est un vaccino-sceptique notoire qui arrive à la tête du ministère de la Santé.
Et il n'est pas le seul, Guillaume.
Non, en effet, Dave Weldon a été désigné pour prendre la tête du CDC, le Centre de contrôle des maladies, qui était en pointe dans les deux politiques de confinement et de vaccination durant la pandémie aux États-Unis. Lui aussi est un vaccino-sceptique notoire et il a déjà joint le geste à la parole. Quand il était représentant de la Floride, il a poussé une législation qui n'a pas passé le stade des commissions pour retirer au CDC, l'institution qu'il doit diriger, le droit de décider de la politique vaccinale. Son but, c'était de confier ses choix au ministre de la Santé, en l'occurrence RFK Junior.
Et ses futurs responsables ont déjà annoncé des choix.
Alors, RFK Junior affirme, lui, qu'il n'est pas contre la vaccination et que d'ailleurs ses propres enfants sont vaccinés, mais contre l'obligation vaccinale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il entend revoir l'efficacité des vaccins et revoir la liste des vaccins obligatoires pour les enfants. Ils sont plus nombreux aux États-Unis qu'en France. Par exemple, aux États-Unis, le vaccin contre la varicelle est obligatoire, alors que dans d'autres pays, comme la France, on laisse circuler la maladie pour que les gens soient immunisés. Dernier point, l'obligation vaccinale ne dépend pas uniquement des autorités fédérales, elle varie selon les États.
Et Guillaume, il y a aussi des décisions qui ont un air de revanche.
Évidemment, comme celle de Donald Trump, de quitter l'Organisation mondiale de la santé, qui avait fortement favorisé la vaccination pendant la pandémie. La collaboration entre les États-Unis et l'OMS avait permis une plus large distribution des vaccins au niveau mondial. Et puis une partie du clan Trump ne cache pas sa volonté de poursuivre en justice le docteur Anthony Fauci, conseiller des présidents Trump et Biden pendant la pandémie et qui était au cœur des politiques de vaccination et de confinement. Des menaces si concrètes que durant les dernières heures de son mandat, Joe Biden lui a accordé une grâce préventive pour l'immuniser contre toutes les poursuites. Un geste très rare et inhabituel dont on se demande encore s'il pourra tenir après d'éventuelles contestations judiciaires. Et
Guillaume Naudin, envoyé spécial permanent de RFI à Washington. Leur travail et les difficultés qu'il et elle rencontrent sur le terrain sont peu connus. On s'intéresse ce matin dans notre question d'environnement aux nombreux, très nombreux dangers auxquels font face celles et ceux qui protègent la biodiversité et notamment en Afrique, les gardes des parcs et des réserves du continent en l'occurrence travaillent donc dans l'insécurité et cela affecte bien sûr leur santé mentale. Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
Ils sont plus nombreux maintenant à parler de ces difficultés psychologiques. Est-ce que c'est un tabou qui se lève ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. À mesure que les politiques environnementales se renforcent, leur métier va devoir s'étendre et ils alertent donc les gardes nature sur le manque d'accompagnement psychologique dont ils souffrent face aux situations de stress extrême qu'ils ont à vivre quasi quotidiennement.
Et alors, à quels dangers font-ils face ?
Il y a des groupes armés, rebelles, djihadistes, mais aussi braconniers ou mineurs illégaux qui sont présents dans de nombreux parcs sur le continent. Alain Mukirania est ranger dans le parc de la Maïko, c'est dans l'Est de la RDC et il a longtemps travaillé avant dans celui des Virunga.
Le métier de garde de nature dans une zone en conflit, c'est être en permanence sur la ligne de front parce qu'à tout moment ça peut crépiter, à tout moment on peut vous attaquer. Ça met le garde dans une situation de crainte, une situation où on est prêt à s'affronter, à mourir, à tuer, à se défendre.
Ces longs jours de marche, de surveillance sur le qui-vive tapent sur le moral.
Quand tu vois ton ami, ton collègue qui est devant toi être tué, et toi ça va créer dans toi sous forme de revanche, sous forme d'une situation, ça impacte le travail, mais même la façon d'être, même leur santé.
Et que se passe-t-il alors, Lucille, pour ces gardes affectés psychologiquement ?
Eh bien, la plupart du temps, ils sont renvoyés chez eux pour se reposer quelques jours, mais c'est tout. Et leurs émotions, leur stress post-traumatique, c'est comme ça qu'on appelle les symptômes qu'on a après une situation violente, ne sont pas traités. Résultat, certains perdent pied, angoisse, cauchemar. Ils réagissent mal sur le terrain ensuite. Certains sombrent dans l'alcool, voire se suicident. Les rangers africains demandent donc à être formés, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, et à être accompagné par des professionnels en cas de situation violente.
Et il n'y a pas que ça qui pèse sur leur morale. Hein.
Non, l'isolement pendant de longues semaines, de longs mois parfois en forêt, dans des conditions spartiates, c'est difficile. Ainsi que le rejet qu'ils subissent, ces gardes nature, de la part de leur propre communauté. Car les braconniers qu'ils arrêtent, par exemple, eh bien, ce sont souvent des habitants de leur village, explique Esther Dapanda Ngunia. Elle est éco-garde dans le parc d'Etosha en Namibie.
Je dois oublier d'où je viens pour m'assurer que la vie sauvage est protégée. Bon, d'accord, c'est mon boulot. Mais à la fin, comment je gère le fait d'avoir arrêté l'un des miens ? Je vais finir négligée par ma propre famille, vue comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Je deviens une méchante aux yeux de ma propre communauté.
Des moyens sont donc aussi nécessaires pour soutenir le travail de sensibilisation à la nature que réalisent ces écoles. éco-gardes auprès des populations locales.
Lucille Gimbert en direct avec nous pour la question d'environnement sur RFI. Toutes nos questions d'environnement à retrouver sur notre site RFI.fr. Dès maintenant, à la une de notre site internet, les États-Unis et Donald Trump qui donne sa première interview et fait voter la première loi de son second mandat. C'est en homepage du site www.rfi.fr. Vous restez avec nous dans une minute, le journal Afrique suivi de l'Infosport, Antoine Grenier.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Les milieux économiques attendaient avec impatience les premières annonces du président Donald Trump. Quelles conséquences pour les Américains dans la lutte contre l'inflation, pour leurs voisins canadiens dans la guerre commerciale qui s'engage, pour les Européens et les Africains en recherche de collaboration? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.